Tarder à arriver, je vais faire l'appel. Donc Yann Lorcy, présent. Jacques Perrin, Stéphanie Guégan, Soizic Perrault, François-Denis Mouaou, présent. Michel Jarnigon, présent. Laurence Kersuzan, Alexandra Aleni. Donc Christophe a du retard, Christophe Beller, Madeleine Joindet, présent. Annie Guimot a donné pouvoir à Yann Lorcy, Philippe Amourette, Marie-Vonne Le Tutour, Yvon Pérez, Sylvie Le Pleu, Emmanuel Le Brigand, Michel Guimot, Alain Pierre, Véronique Bourgeois, Le Bourgeois a donné pouvoir à Michel Guimot, Laurent Berriot, Eddy Renaud, Hervé Gestin, Georges-Yves Guillot, Chantal Gastineau a donné pouvoir à Laurence Kersuzan, Émilie Cramet, Jean-Pierre Dupont, Daniel Le Couviour, Loïc Burban, Laurence Laurence, Faten Arabjaziri, Éric Séguet et Marie-Madeleine Doré-Lucas s'est excusée. Bien, je vous remercie. Je suppose que la feuille d'émargement circule. Nous l'avons fait circuler. Donc je vous propose maintenant de désigner une secrétaire de séance, la plus jeune, Émilie. Merci. Et puis nous allons alors démarrer l'ordre du jour. Auparavant, je voulais vous rappeler, au dernier conseil municipal, je vous avais rappelé notre manière de procéder concernant les comptes rendus et le procès-verbal. Et vous avez donc demandé de réfléchir à la proposition, en fin de compte, de dématérialiser aussi ce compte rendu. De continuer sur le compte rendu tel qu'établi actuellement et pour le procès-verbal, donc de renvoyer au procès-verbal audio de la séance sur le site de la ville. Nous vous avions demandé de faire part de vos observations avant aujourd'hui. Nous n'avons reçu aucune observation. Donc, je ne sais pas si vous avez des observations à présenter ou sinon, on prolonge un petit peu le délai.
On est favorable au compte rendu audio dans la mesure où il est audible, ce qui n'est pas toujours le cas, je crois. Donc il faudra veiller à ce qu'il soit audible dans son intégralité.
Mais le souci, c'est que quand il n'est pas audible, même s'il est retranscrit à la machine, en fin de compte, nous n'avons pas non plus la partie inaudible, quoi. Donc il faut que chacun aussi soit vigilant à bien utiliser les micros lorsqu'il s'exprime. Donc voilà. Alors autrement, sur la dématérialisation là, du conseil municipal, donc, nous lançons ce soir le premier conseil municipal mixte, tablette et version papier, avant le conseil municipal du 29 juin qui sera entièrement dématérialisé. Donc je remercie les conseillers municipaux d'avoir pris part à la formation dispensée sur l'utilisation de la K-Box. Cette nouvelle application tend à se développer dans de plus en plus d'assemblées locales permet principalement la convocation électronique et un dépôt des documents à valeur probante, la consultation des documents du conseil municipal, d'annoter, commenter et surligner le texte et d'échanger et collaborer en partageant ses notes avec son groupe. Donc cet investissement répond avant tout à la démarche Agenda 21 dans laquelle la ville de Pontivy est engagée, qui vise à réduire l'utilisation du papier et ainsi des déchets. L'investissement répond aussi à une volonté de la municipalité de permettre aux élus de bénéficier d'un service rapide et pratique et de faciliter la tenue des conseils municipaux. J'insiste sur le fait que ces tablettes qui sont mises à votre disposition durant le temps du mandat sont là pour vous faciliter le travail et pour vous permettre de gagner en efficacité et en réactivité. Notre service informatique en la personne de Grégory Roy se tient à la disposition de chacun d'entre vous pour répondre à toutes vos questions. Vous aurez remarqué que les élus, comme les responsables de services assistants au conseil municipal, en sont équipés. Nous allons trouver une solution pour la presse afin qu'elle puisse aussi suivre la version numérique du conseil municipal. Cette tablette numérique est un outil de travail, ce n'est pas un jouet. Cet investissement important de la part de la ville de Pontivy appelle donc de la part des élus que nous sommes une responsabilité et de la retenue dans l'usage que nous en ferons. J'entends les critiques qui ont été faites sur le coût de ces tablettes. L'investissement sur 5 ans peut effectivement paraître important. Il comprend l'acquisition du logiciel, les abonnements annuels, l'hébergement, la formation, le coût des tablettes, bien sûr. Mais il faut penser y retrancher l'économie réalisée en termes de main-d'œuvre, de papier, d'impression et en temps aussi. Donc je rappelle quand même que la préparation d'un conseil municipal impression et mise sous pli mobilisait jusqu'à présent un agent à temps complet sur 2 jours. Et ce n'est que la préparation du conseil municipal. Il existe toutes les autres commissions. Donc il s'agit d'un investissement juste et utile, comme le prouve la quasi-unanimité des voix recueillies lors du conseil municipal du 27 avril 2015 sur la délibération autorisant la ville à équiper ses élus de cartables électroniques. Ces tablettes sont en tout cas le symbole d'une municipalité qui vit avec son temps, d'une municipalité connectée et d'une municipalité du 21e siècle. Voilà, je tenais à faire cette précision avant de démarrer et je vous propose maintenant d'aborder l'ordre du jour. Nous démarrons par la commission urbanisme, développement durable, déplacement et habitat et je donne la parole à François-Denis Mouaou.
Merci Madame la maire. J'ai le plaisir et l'honneur de commencer la délibération via les tablettes. Donc voilà, ça sera inscrit quelque part, je serai le premier à le faire. La commission dont je suis le rapporteur a 2 délibérations à vous proposer sur lesquelles il va falloir qu'on se prononce. La première sur le chemin donc André Le Botelan et la deuxième délibération, ça concerne le programme local d'habitat dont un premier travail a été fait à Pontivy Communauté et donc on va faire une délibération au niveau de la ville et ça poursuivra donc son cours. Alors pour commencer sur la première délibération, chemin André Le Botelan, Minoden André R. Botelan, modification à la liste des voies publiques et privées de la commune. L'association amicale cyclotouriste pontivienne sollicite la ville de Pontivy pour rendre hommage à l'un de ses anciens membres, M. André Le Botelan. Elle propose de dénommer le chemin qu'il a contribué à aménager en contrebas du resto, le long du ruisseau du Talin, chemin André Le Botelan, Minoden André R. Botelan. Ce chemin qui dessert la fontaine R. Florène est régulièrement emprunté par les promeneurs. La commission a donné un avis favorable à cette proposition. Nous vous proposons d'ajouter à la liste alphabétique des voies publiques et privées de la commune le chemin situé en contrebas du resto, le long du ruisseau du Talin, et de le dénommer chemin André Le Botelan, Minoden André R. Botelan.
Bien, y a-t-il des questions ou des observations concernant ce projet de délibération ? Donc, je la soumets au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Donc la délibération est adoptée. Je vous remercie. Donc nous passons au plan local de l'habitat. En amont, j'aurais souhaité rétablir quelques vérités concernant, suite à la conférence de presse qui a été faite par la fondation, enfin le représentant de la fondation Abbé Pierre la semaine dernière. Je regrette d'une part que la fondation Stéphane Martin de la fondation Abbé Pierre se soit basée sur le projet de plan local de l'habitat, alors même que les communes et la communauté de communes ont encore à délibérer dessus, et c'est ce que nous allons faire pour la ville de Pontivy tout à l'heure. Ensuite, deuxième élément, la conférence de presse de M. Martin a eu lieu avant l'intervention du vice-président en charge des solidarités qui devait présenter le plan local de l'habitat à la Réunion l'après-midi, Marc Repers. Et donc la conférence de presse a été tenue avant cette présentation du plan local de l'habitat. Donc je regrette qu'il se soit exprimé avant cette présentation. Ensuite, la Fondation, je voudrais dire que la Fondation a été conviée à toutes les réunions préparatoires, mais n'a jamais été représentée. Et donc, quelques chiffres qui ont été évoqués ne sont pas les chiffres que nous avons dans nos dossiers, à savoir sur le taux de logement social, alors, qui ne concernait pas la ville de Potivy, mais le territoire de Potivy Communauté. Le vrai taux de logement social est de 9,4% et non de 6%. En fait, l'association a oublié de comptabiliser les logements communaux et les logements privés conventionnés ANA. Et pour la ville de Potivy, nous sommes à 15% de logements sociaux. Enfin, Monsieur Martin a oublié aussi de faire état des sommes quand même relativement conséquentes que Potivy Communauté a prévu de consacrer à la création des logements sociaux à la destination des ménages les plus modestes. Était évoqué aussi le délai d'attribution du logement social. Or, ce taux, le chiffre était là aussi inexact, puisqu'il est sur Pontivy Communauté de 8 mois contre 9-8 mois dans le département du Morbihan. Donc, je tenais quand même à apporter ces précisions. Voilà, et maintenant, je repasse la parole à François Denis pour nous présenter ce plan local de l'habitat. Ce programme local. Oui.
Alors, au préalable, avant de lire la délibération, on a tous reçu la synthèse du travail qui a été fait en commission à Pontivy Communauté et le dossier sur lequel on s'est prononcé aussi au sein de Pontivy Communauté. La question que j'ai envie de vous poser, comment on procède? Est-ce que vous l'avez lu? Est-ce que vous avez des remarques, des ajouts? Sinon, on passe directement à la délibération.
Bien.
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L302-1 et suivant et R302-1 et suivant portant sur la procédure de validation du programme local de l'habitat. Vu la délibération du 8 avril 2015 de Pontivy Communauté arrêtant le projet de PLH, considérant le projet de PLH joint à la présente délibération, considérant que ce projet doit être soumis pour avis au vote du Conseil municipal, le programme local de l'habitat est un outil de planification et de définition d'une stratégie d'action en matière de politique de l'habitat qui se décline à l'échelle de 26 communes de Pontivy Communauté. Le programme local de l'habitat est élaboré pour une durée de 6 ans, autant pour moi. Les documents d'urbanisme tels que le PLU doivent permettre sa mise en œuvre ou, à défaut, être mis en conformité. Le programme local d'habitat doit apporter des réponses aux besoins en hébergement et favoriser la mixité sociale et renouvellement urbain. Le projet du programme d'habitat comprend un diagnostic, un document d'orientation, un programme d'action. Les orientations arrêtées sont les suivantes. Agir sur le foncier et l'urbanisme en mettant en place une politique foncière au service de l'habitat et en maîtrisant la consommation foncière. Développer une offre locative, abordable, diversifiée et qualitative. Sécuriser l'accession à la propriété. Renouveler et réinvestir le parc existant. Apporter une réponse aux ménages à besoins spécifiques. Initier les actions transversales permettant d'animer et de suivre le programme local d'habitat. Nous vous proposons d'émettre un avis favorable sur le projet du programme local d'habitat, tout en regrettant que les orientations définies pour apporter une réponse aux ménages à besoins spécifiques ne soient pas traduites dans leur intégrité dans le programme d'action. Leur intégralité, oui. Dans l'intégralité dans le programme d'action.
Bien, y a-t-il des observations ou des questions? Donc, vous aviez annexé à la délibération ce programme d'action. Donc, avez-vous des questions, des précisions ou souhaitez-vous que nous reprenions le programme d'action pendant la séance?
Moi, je pense que ça pourrait être bien de reprendre les grandes orientations de ce programme d'action. Ça permettrait que tout le monde soit au même point d'information, même si tout le monde évidemment a eu le document. Mais je pense que c'est important, et d'autant plus que le conseil ne va pas être très long. Donc je pense que c'est un sujet important, le logement, pour qu'on s'attarde un peu là-dessus.
Je vais donc le lire. Alors, on a quelques rappels sur la première page. Donc, on a le PA sont obligatoires pour les établissements publics, voilà, comptant plus de 30 000 habitants, avec une ville centre de plus de 10 000 habitants. Le PLH doit être compatible avec le SCOT, donc le schéma de cohérence territoriale. Le programme, donc les PLU doivent être conformes au PLH. Il y a donc une élaboration en trois phases, il y a un diagnostic qui a été fait, voilà, des orientations et puis un programme d'action. Ça, c'est pour le rappel. Alors, la procédure d'adoption est celle-ci. Mais non, touche pas. Bah alors, qu'est-ce qu'il me fait ? Touche pas à mon truc. Non, j'ai pas fini. C'est parce qu'elle a touché à... On ne peut pas jouer avec ça.
Pas vrai. Bon, j'espère que la dématérialisation ne nous retardera pas.
C'est la page.
Prends ton document papier.
La procédure d'adoption du PLH. Donc, l'arrêt du projet de PLH au Conseil communautaire du 8 avril 2015. Saisine de commune du projet de PLH, 2 mois pour faire connaître leur avis. C'est ce qu'on a tenté de faire. Adoption du projet de PLH au vu des avis émis au Conseil communautaire du 2 juillet 2015. Donc ça, c'est la procédure. Transmission après du projet de PLH au préfet qui saisit le comité régional de l'habitat et de l'hébergement, avis et demande des modifications, le cas échéant. Adoption définitive qui sera faite donc au sein de Pontivy Communauté avant la fin de l'année 2015. Et après, donc, il y a le diagnostic donc, qui porte sur la démographie, sur le marché de l'habitat, sur le parc de logement. Je ne sais pas si vous voulez lire tous les détails, mais pour la démographie, un développement démographique positif, mais ne profitant pas à l'ensemble des communes. Une population qui reste jeune et familiale, malgré un vieillissement marqué sur certains secteurs. Un niveau de ressources des ménages montrant une certaine fragilité économique, ça c'est pour la démographie. Concernant le parc de logements, des besoins encore importants pour la réhabilitation des résidences principales, un parc vacant en augmentation pour le marché de l'habitat, un rythme de construction en baisse, une détente du marché de logement, un parc locatif, pas toujours d'un bon rapport qualité-prix. Les orientations, donc des axes d'intervention et puis les principes transversaux. Concernant les axes d'intervention, maintenir des conditions favorables à l'accès et au maintien d'un logement, garantir des possibilités de parcours résidentiel pour les ménages, mieux maîtriser l'urbanisation du territoire, optimiser les capacités du parc ancien pour valoriser le tissu existant et limiter l'étalement urbain, apporter des réponses aux ménages à besoins spécifiques. Concernant des principes transversaux, une solidarité envers les communes les plus en difficulté, une mutualisation de certains moyens, une promotion territoriale à assurer. Alors après, vous avez un tableau plus ou moins synoptique sur le déroulement du PH. Donc vous avez ici apporté des réponses aux problèmes du territoire et à ses ambitions de développement en direction. Vous avez donc les communes, les habitants, les opérateurs, la mise en œuvre des moyens internes, le financement, le partenariat, et enfin qui aboutit donc à un résumé de 6 thématiques d'intervention. Le premier thème est donc le foncier et l'urbanisme, financer une ingénierie en amont, apporter une aide financière aux communes pour les opérations en renouvellement urbain, les opérations de lotissement, fonds et de concours, mobiliser les moyens internes pour mettre en place une veille foncière centralisée à Pontivy-Communauté, accompagner les communes pour la mise en compatibilité de PLU avec le PH et le SCOT, mobilisation des outils, des documents d'urbanisme, le choix de maîtres d'œuvre, la maîtrise des divisions parcellaires et enfin faire appel à un stage de fin d'études pour finaliser la charte qualité et expérimenter bien bail sur un quartier ciblé. Et vous avez donc sur la colonne de droite, vous avez donc les enveloppes annuelles moyennes qui sont plus ou moins indiquées et on verra plus tard dans un tableau qui résume tout ceci. Deuxième thème, développer une offre locative abordable, diversifiée, qualitative, apporter une aide financière aux opérateurs sociaux, à la ville de Pontivy, mobiliser les moyens internes pour accompagner les communes sur la traduction des objectifs du PLH sans les documents d'urbanisme, le conventionnement des logements communaux, accompagner spécifiquement la ville de Pontivy sur l'attractivité de son parc locatif social. Et vous avez mobilisé un partenariat en conventionnant avec les opérateurs et les partenaires, associé les partenaires suivants, donc qui sont les bailleurs de fonds, Conseil Général 56, État, Adila. Sécuriser l'accession à la propriété, apporter une aide financière aux accédants dans l'ancien en centre-bourg, mobiliser les moyens internes pour centraliser l'information à destination des ménages souhaitant accéder à la propriété, communiquer auprès des professionnels de l'immobilier et des banques, mobiliser un partenariat, travailler sur des opérateurs sociaux pour associer les ménages à la définition du projet, donc le PSLA. Alors, j'ai préparé un lexique au cas où vous poserez des questions. Donc, c'est le prêt social local accession. Voilà. Sécuriser la revente du parc HLM. Solliciter les partenaires suivants, bailleurs sociaux, État, Adil, AL du pays de Pontivy, banque et professionnels de l'immobilier. Renouveler et réinvestir le parc existant. Mettre en place une ingénierie en amont. Apporter une aide financière aux propriétaires occupants et aux propriétaires bailleurs, aux associations d'accompagnement de projets en auto-réhabilitation, aux communes pour la réalisation d'une étude de revitalisation de leur centre-bourg. Mobiliser des moyens internes pour accompagner les communes sur la mise en place d'actions pour la reprise du parc vacant, la mise à disposition d'une boîte à outils centre-bourg. Accompagner les ménages occupant le parc ancien, mettre en place des actions de sensibilisation, mettre en place un suivi spécifique de la vacance. Mobiliser un partenariat, Conseil général, Agence nationale de l'habitat, professionnels de l'immobilier. Apporter une réponse aux ménages à besoins spécifiques. Soutenir l'innovation et l'expérimentation, lancer un ou deux appels à projets pour l'expérimentation de projets alternatifs aux réponses traditionnelles, ajouter une aide financière dans le cadre de l'OPA pour l'adaptation du parc privé occupé par des personnes âgées et handicapées, aux opérateurs et aux communes, aux ménages non éligibles à l'ANA, aux ménages confrontés à la perte brutale de leur logement, à savoir donc conventionner avec les bailleurs sociaux et les professionnels de l'hôtellerie. Apporter donc une réponse aux ménages à besoins spécifiques, donc c'est la suite. Hein, mobiliser des moyens financiers pour la réalisation de la résidence Sainte-Eugénie. Proposer une aire d'accueil des groupes familiaux tournantes de 2 hectares minimum. Mobiliser des moyens internes pour recenser et centraliser l'information à destination des personnes âgées et handicapées, des jeunes et des ménages défavorisés. Mobiliser un partenariat, mettre en place un groupe de travail partenarial, associer les partenaires suivants, donc CLIC, CSAS, CIR, ainsi de suite. Action transversale, suivre et animer le PLH. Donc mener des actions transversales, soutenir l'innovation et l'expérimentation, mobiliser des moyens techniques pour la création d'un observatoire local de l'habitat, c'est-à-dire mettre en place des indicateurs de suivi, constituer une base de données et l'actualiser en continu, renforcer le service habitat de Pontivy Communauté pour accompagner la montée en charge du programme local d'habitat, accompagner et former les communes, formaliser le partenariat. Voilà, donc Adil, fournisseur de données, bailleurs sociaux et État, développer des outils de communication et de concertation. Créer un guichet unique d'information sur l'habitat à partir de l'année 4 du PLH. Mobiliser un partenariat, mettre en place un comité de suivi du PLH. Et vous avez après ici donc un guichet unique. Hein. Bon, je ne veux pas vous le relire, hein. Vous l'avez en face de vous. Et vous avez donc à la fin un vrai service aux habitants, simplifier donc la simplification, la proximité, réponse globale, une visibilité de l'action intercommunale. Le PLH est un appui aux communes, donc des aides financières, acquisition et portage foncier, études de renouvellement urbain et les opérations de lotissement, production et amélioration de logements locatifs sociaux, la mise à disposition d'une boîte outils et accompagnement à sa mise en œuvre, c'est-à-dire la réalisation des référentiels fonciers, élaboration et révision des documents d'urbanisme, mise en compatibilité avec le PLH et puis le SCOT, études d'urbanisme de type BIMBY, outils d'urbanisme et ou de veille, ZAC-ZAD, outils financiers, taxes sur le foncier non bâti, taxes d'habitation sur les logements vacants, outils coercitifs, péril, insalubrité, biens vacants, 100 mètres, conventionnement des logements communaux. Vous avez appris ici donc, le budget annuel moyen, hein, donc qui vous résume donc sur un tableau. Donc, vous avez ici l'urbanisme foncier, la production de logements locatifs aidés, l'accession à la propriété, amélioration de l'habitat privé, réponse aux besoins de ménages spécifiques, les actions transversales. Et vous avez donc à droite les coûts qui sont estimés. Et vous avez donc un budget total de 708 000 euros par an. Et vous avez ici les coûts par type d'intervention, donc en ingénierie en amont, aide financière, les moyens internes. Vous avez aussi sur la colonne de droite donc le coût global et le coût par an. Et vous avez un total de 4 249 265 euros, voilà, et vous l'avez aussi par an. Vous avez donc un tableau sur la page suivante, qui fait la synthèse sur, de 2016 à 2021. Et vous avez donc sur la colonne des totaux, vous avez 4 249 266 euros qui résume ce qu'on a vu précédemment. Les répercussions financières, donc 2016-2021. Une politique de l'habitat qui pourrait contribuer à générer près de 180 millions de travaux pour les constructions neuves. Plus de 5 700 000 euros de travaux de réhabilitation, soit un total de 185 millions de travaux réalisés majoritairement par des entreprises locales. Ainsi, donc ça a été estimé, 1 euro investi par Pontivy Communauté dans le programme local de l'habitat contribue à générer 36 euros de retombées économiques. Ce total correspond à l'équivalent de plus de 245 emplois créés ou maintenus par an dans l'artisanat du bâtiment. Ces sommes ne prennent pas en compte les dépenses de viabilisation ni les retombées pour les collectivités locales, taxes d'aménagement, taxes d'habitation. Et vous avez à la fin une carte sur la territorialisation des actions qui seront menées. Voilà, je crois que j'ai fini de vous faire part de ce document de synthèse.
Oui, Daniel.
Je voudrais faire une intervention en deux points. Le premier concerne le PLH lui-même et le deuxième concerne le regret que vous avez émis dans la délibération. Moi aussi, j'ai été surpris comme vous par les chiffres annoncé par la Fondation Abbé Pierre, pardon, et M. Martin. Je ne me retrouvais pas dans les chiffres des taux de logements sociaux, notamment. Donc je suis heureux que vous ayez corrigé ces chiffres ce soir. Donc concernant le PLH, bon, évidemment, nous partageons le diagnostic, les orientations, le plan d'action. D'ailleurs, nous l'avons voté donc déjà à Pontivy-Communauté. Par contre, nous l'avons voté d'autant plus que le plan d'action rejoint les préconisations de l'étude d'analyse des besoins sociaux qui avait été faite sur la ville. Et notamment donc la création de nouveaux logements sociaux, la réhabilitation des logements sociaux existants faisait partie de ces préconisations et on retrouve ça dans le plan d'action. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Par contre, quand je lis le dernier tableau sur le montant des travaux estimés, je suis un peu inquiet. Parce que quand on annonce 180 millions de travaux de construction neuve et à peine 6 millions d'euros de réhabilitation, donc un rapport de 97-3, on va se dire, qu'on peut se dire qu'on n'a pas fini de consommer des terres agricoles sur notre territoire de Pontivy-Communauté, hein, alors qu'on sait qu'il y a des logements vides, on sait qu'il y a des logements insalubres. Donc je pense qu'il y a un problème d'adéquation entre réhabilitation et construction neuve dans ce PLH, à moins qu'il y ait une erreur dans l'évaluation, mais d'autant plus qu'on parle des retombées économiques de 36 euros. Moi, j'ai essayé de retrouver les 36 euros, je ne les retrouve pas. Moi, je tombe sur 42, à moins que Pontivy-Communauté ne finance pas tout. Il y a peut-être d'autres financements extérieurs. C'est possible aussi, ça peut être possible. Enfin, en tout cas, moi, je voudrais donc exprimer notre inquiétude sur ce rapport construction neuve et réhabilitation. Et puisqu'on est sur le logement social, je voudrais savoir où en est le projet, la phase 2 du projet de réhabilitation Clémenceau, où on en est sur ce projet. Donc ça, c'était pour le PLH. Donc évidemment, on revotera ce soir ce PLH, comme on l'a fait à Pontivy-Communauté. Alors sur le regret, donc là, vous évoquez le problème des familles déboutées du droit d'asile, les personnes ressortissant du CADA. Voilà. Et alors je pense qu'il faut passer du stade regret au stade de trouver une solution avec Pontivy-Communauté. Moi, je pense, et donc là, vous avez la main, Madame la Présidente, hein, parce que je pense que les élus, lors du Conseil communautaire de Kerguist, la majorité des élus sont favorables à ce qu'on trouve une solution digne pour ces familles, pour ces personnes, pour ces enfants, pour ces parents. Et il ne faut pas tenir compte, je dirais, des avis seulement motivés par des considérations financières. Il faut qu'on sorte de ces considérations, d'autant plus que c'est des gens qu'il y a derrière, c'est des familles, des enfants. Et donc, je pense qu'il faut, sans plus tarder, parce que je pense que les élus de Pontivy-Communauté sont prêts à accepter de trouver une solution et de la financer, puisque c'est quand même ça le nerf de la guerre. Mais je rappelle aussi, si les chiffres que nous a donnés sont bons, qu'on parle de 4 000 euros sur un budget de Pontivy-Communauté de plus de 20 millions d'euros en fonctionnement. Donc, il faut aussi relativiser les choses et surtout trouver des solutions pour ces familles. Voilà ce que nous voulions dire par rapport au PLH.
Oui, alors effectivement, concernant les chiffres qui nous sont, tant pour la réunion de Pontivy-Communauté que ce soir, je n'ai jamais compris ce calcul des 180 millions. C'est vrai que, bon, je l'ai dit, mais bon, je n'ai pas demandé le détail, enfin comment cela pouvait être calculé, d'autant que le programme local de l'habitat insiste beaucoup sur la réhabilitation. Je ne sais pas dans le détail qui a été redonné. Vous voyez, dans les centres-bourgs, on insiste sur reconstruire, réaménager des bâtiments existants, intéressant, parce que même dans les centres-bourgs, il existe, ce qui est dommage, c'est qu'il existe des maisons qui sont vides et que là, on propose justement une aide aux familles pour évaluer le montant des travaux qu'elles pourraient avoir si elles achetaient ces maisons anciennes, et tout ça pour limiter justement les constructions. Donc, alors, je donne cet exemple-là, mais je sais qu'il y en a plusieurs. Même sur Pontivy, nous avons parlé aussi d'une opération d'amélioration de l'habitat urbain. Donc, nous, finalement, ce programme local de l'habitat est quand même orienté sur la réutilisation de locaux existants avant des constructions neuves. D'où, moi aussi, mon étonnement là-dessus, et puisque vraiment, à la lecture, on se rend compte que le rapport réhabilitation-construction neuve va plutôt à favoriser justement les réhabilitations. Donc, voilà pour cela. Maintenant, ces calculs-là ont été faits par des cabinets spécialisés, mais c'est vrai qu'il faudrait qu'ils nous donnent leur méthode de calcul. Concernant Clémenceau, donc, l'un des bâtiments est actuellement vide et les personnes ont été relogées, enfin sont en cours, ou du moins sont en cours de relogement dans d'autres bâtiments, les bâtiments neufs. Et donc le projet avance de reconstruire de nouveaux bâtiments, hein, puisque c'est des constructions et reconstruction, avec peut-être à terme un programme de logements individuels sociaux, puisqu'il y a une forte demande sur la ville. C'est ce que nous avons demandé, c'est que nous n'ayons pas que du collectif, mais aussi des logements individuels, un petit peu comme la Cité Pasteur, mais bon, bien sûr, à la date d'aujourd'hui, puisque c'est une demande notamment, enfin, qui avait été relayée par Stéphanie Guégan, puisque c'est une demande dans le cadre des familles décomposées, notamment, où les mamans, quelquefois avec les enfants, aiment bien avoir un coin de jardin. Donc, nous souhaitions avoir ce type de logement. Pour la cité Clémenceau. Quant au débouté du CADA, alors souvenez-vous, à Pontivy Communauté, j'avais demandé, donc à Stéphanie s'exprimera peut-être là-dessus, mais j'avais demandé à Marc Repers qu'il réétudie cette question dans le cadre de sa commission. Et c'est vrai que la question a été inscrite à l'ordre du jour de la dernière commission et qu'un travail est fait là-dessus. Stéphanie y a participé, pourra peut-être nous donner quelques échos. Mais bon, c'est en bonne voie de trouver une solution. Je vais passer la parole à Stéphanie, peut-être.
Je pense que tout a été dit. Je peux aller que dans votre sens, monsieur le Couvure, puisque j'ai été la seule à m'abstenir lors de la présentation du PLH à la communauté de communes sur ce point. Oui, effectivement, moi, je voudrais souligner que nous avons une problématique d'hébergement sur notre territoire. Par rapport à ces personnes qui sont déboutées de leur demande d'asile et qui sortent du CADA. Je voudrais bien préciser que c'est bien une réalité et on est bien loin d'un problème de compétence en soi, quoi. Donc aujourd'hui, déjà depuis quelques mois, nous avons proposé une solution qui est plutôt, je dirais, cohérente tant au niveau humain que financier. On l'a abordé lors du conseil communautaire, je peux peut-être la rappeler. Il s'agit d'un partenariat entre la Fondation Abbé Pierre, une association caritative, et puis donc aujourd'hui un CCAS, qui serait porteur de ce projet. L'idée est qu'un logement social est mis à disposition. Les loyers ainsi que les fluides sont pris en charge par l'ensemble de la communauté de communes, donc soit un budget moyen à peu près de 5 000 euros. La Fondation Abbé Pierre subventionnerait l'association caritative pour les aider justement à être aux côtés de ces familles, pour entretenir le logement, pour tout ce qui est question d'assurance et surtout pour avoir un suivi auprès d'elles. Quand on dit suivi, on parle vérifier que le logement est bien entretenu, vérifier qu'ils arrivent à bien s'intégrer, vraiment quelque chose de cohérent, comme un petit peu sur le principe de Rennes, mais à notre échelle effectivement. Donc aujourd'hui, nous avons trouvé l'association caritative, le partenaire. Il ne reste plus un avis favorable de Pontivy Communauté, en sachant que lors de la dernière commission où était présente Madame Laurence, la commission a voté un avis favorable sur ce projet.
C'était plus de savoir, comme on avait évoqué à la commission, pourquoi il n'y aurait pas... Excusez-moi. l'idée d'une solidarité territoriale dans un projet de territoire qui impliquerait que, effectivement, il y ait une compétence portée par Pontivy Communauté et pas uniquement par la ville de Pontivy. C'était ça le sens de la question, parce qu'on est bien conscient que c'est la ville de Pontivy qui porte cette problématique, alors qu'on est en train de mettre en place au niveau de Pontivy Communauté un projet de territoire. Donc ça avait été évoqué effectivement en commission. Hein. Cette demande a été évoquée et c'était le sens de la question. Est-ce qu'on pourrait pas, en bureau communautaire, réinterroger les différents maires, voilà, pour qu'à un moment ou un autre, peut-être, cette problématique soit portée par l'ensemble de la communauté de Pontivy Communauté. C'est dans ce sens-là que va l'intervention.
Alors, oui, donc ça a été discuté effectivement par la commission et c'est inscrit à l'ordre du jour du prochain bureau communautaire. Donc, j'ose espérer que les votes seront favorables. Mais je vous rappelle quand même que l'un des conseils municipaux, ou des conseils municipaux, je ne sais pas, puisque si c'est au pluriel, a quand même voté contre. Hein, puisqu'il y a eu une délibération de prise à l'encontre dans une des communes à présent. Enfin. Je l'ai lu dans la presse. Donc, bon, nous verrons l'avis, mais bon, il fallait que ce soit la commission qui réfléchisse, qui propose, et puis donc maintenant le bureau communautaire sera appelé à se positionner, voire le conseil communautaire éventuellement. Voilà. Mais c'est inscrit à l'ordre du jour de la prochaine réunion de bureau.
Si j'avais un souhait à émettre par rapport à ce projet, c'est que là, on a le papier, le programme est bien fait, le travail était bien fait par le cabinet d'études. Maintenant, on veillera à ce que ce programme d'action soit réalisé d'ici 2021. C'est mieux de l'avoir écrit, il va falloir qu'on passe aux actes. Sinon, ça restera une étude qu'on mettra quelque part. Voilà. Et je suis bien d'accord sur la solidarité de Pontivy Communauté, mais sans non plus déshabiller Pontivy, qui est donc la ville centrale structurante. Voilà ce que j'avais à dire par rapport à ce projet.
Éric.
Oui, alors justement, c'est ce passage aux actes là qui m'intéresse. Donc moi, j'avais prévu de parler un peu pour pas dire grand-chose, parce que comme j'ai vu que le conseil municipal était court. Et donc j'étais très heureux de recevoir ma tablette, très étonné de recevoir aussi le diaporama qui a été publié au bureau, projeté au bureau communautaire, imprimé. Mais bon, c'est effectivement le conseil mixte, j'avais oublié ce détail. Et la formation pour les tablettes était très intéressante. Elle tombait le jour d'un conseil communautaire, à la même heure, auquel j'aurais bien aimé assister, puisque c'est au cours de ce conseil communautaire qu'a été émis l'avis défavorable sur le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de Loire-Bretagne. Alors, je voulais justement établir un parallèle, en fait, entre les deux sujets, parce que, pour moi, ces deux sujets sont exemplaires déjà de la complexité du millefeuille territorial. C'est-à-dire que si on prend le schéma d'aménagement des eaux du bassin de Loire-Bretagne, se superpose donc la communauté de communes qui a été amenée à donner un avis, le SAGE Blavet qui gère les eaux du bassin versant du Blavet, le SDAGE du Loire-Blavet qui est censé appliquer les directives européennes. Et j'aimerais bien dire quand même à ce moment-là que heureusement qu'en matière environnementale, il y a l'Europe pour imposer des mesures. Et il y a aussi des directives nationales. Alors, si on prend le programme local d'habitat, on nous demande ce soir un avis en conseil municipal sur un document qui a été présenté en bureau communautaire, tout en expliquant...
Conseil.
Oui, mais bon, le document qui est joint dans le dossier du conseil municipal, c'est bien marqué en tête que c'est le bureau communautaire. Hein.
Le conseil aussi, les deux.
Oui. Donc... On nous demande en conseil municipal de nous prononcer sur quelque chose qui était déjà voté en conseil communautaire, tout en nous disant que c'est très intimement lié au SCOT. Le SCOT qui, lui, est élaboré au niveau du pays de Pontivy, c'est-à-dire au niveau de 3 communautés de communes, et SCOT qui est censé mettre en application concrète des directives qui ont été décidées au Grenelle de l'environnement. Alors, les deux sujets sont aussi, à mon avis, extrêmement intéressants à mettre en parallèle pour ces obligations, justement, en termes de développement durable. Donc là, on a parlé de l'aspect social. Et il y a effectivement, toutes les remarques qui ont été faites sont très pertinentes de ce point de vue-là. Et il y a aussi de nombreux aspects environnementaux dans ce programme, qui sont extrêmement intéressants et favorables. Il y a l'idée de communiquer auprès des professionnels, des aides pour réhabiliter l'ancien, l'idée d'accompagner les communes pour la reprise du parc vacant, mettre en place le BIMBY, qui, comme chacun sait, cherche à densifier de manière maîtrisée les espaces qui sont... Et donc, le problème ici, c'est que j'attends de voir. C'est-à-dire que, comme le disait François Denis, il y a des réalisations concrètes à faire derrière. Mais moi, ce qui m'inquiète plus, c'est de savoir quelle est la volonté réelle des maires de la communauté de communes. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça se passe au niveau du SCOT. Or, à l'intérieur du pays de Pontivy, les problématiques sont complètement différentes. La ville de Pontivy a et aura, je l'espère, une volonté affichée de limiter l'étalement urbain, de redensifier le bâti, de reprendre en main les bâtiments vides. Et j'espère que François Denis saura porter cette énergie avec courage, comme il a pu le faire, en votant justement favorablement sur l'autre dossier, qui était celui d'un avis favorable au stage Blavé. Donc il y a la ville de Pontivy, qui, je l'espère, a cette volonté-là. Il y a des communes au bout, pourrait-on dire, de la communauté de communes qui ont des problématiques complètement différentes, parce que, elles, leur problème, c'est d'attirer de nouveaux habitants. Et il y a, dans la première couronne autour de Pontivy, des communes où, depuis une dizaine d'années, on a vu fleurir un très grand nombre de lotissements. Et si vous avez été, comme moi, observateur avisé de la campagne municipale, des campagnes municipales de l'année dernière, il y a même certains maires qui mettaient dans leur bilan et dans leur programme le fait de proposer de nouveaux lotissements. Donc, et qui le présentait comme un bilan positif. Donc moi, je m'interroge effectivement là-dessus. Et ces ambitions-là, aussi bien celles de la défense d'une eau de qualité que celles de limiter, comme ça a été dit plusieurs fois, l'étalement urbain, ces ambitions-là sont pourtant essentielles pour l'avenir. Et je pense, Madame la Présidente, qu'il vous faut, dans ce cas-là, une volonté très forte. Et s'il y a, peut-être face à vous, des inerties, il faut aussi penser que parmi tous les gens qui ont voté pour vous ou qui ont voté pour nous, des gens qui attendent une énergie pour faire avancer les choses dans le bon sens. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. C'était pas si long que ça, finalement.
Mais c'était longuement exposé. Bien, c'est vrai que les attentes des uns et des autres ne sont pas les mêmes. Mais après, les délibérations sont prises, retracent quelquefois les avis des uns et des autres, qu'effectivement, la ville de Pontivy et les communes rurales ne font pas toujours les mêmes choix. Après, je suis obligée de me ranger au vote démocratique, puisque bien souvent, les projets font l'objet d'un vote. Cela dit, le SCOT, qui est en train de se finaliser, finalement, établit des règles auxquelles devront se conformer les plans locaux d'urbanisme. Et que, compte tenu de ces règles, on sait bien que le SCOT, tout autant que les plans locaux d'urbanisme, d'ailleurs, parce que la réglementation, même à l'échelle nationale, est très restrictive en matière d'étalement aujourd'hui urbain, font que, de toute façon, les espaces constructibles tendront à diminuer, puisque sont déjà privilégiés, d'ailleurs, souvent les dents creuses en milieu urbain. Mais quand je dis milieu urbain, c'est y compris dans les communes rurales. rural, les dents creuses ou les extensions très très proches des agglomérations. En fin de compte, il n'y a plus forcément d'autorisation de construction, même en campagne. Et là, comme j'ai été à un moment donné commissaire enquêteur et que j'ai eu quelques cartes communales et quelques plus justement à suivre, j'ai déjà pu observer justement une forte restriction des zones constructibles. Et c'est vrai que ce programme de local de l'habitat a quand même mis l'accent sur la réhabilitation. Parce que je me souviens d'être allée inaugurer à l'automne dernier une salle, fort jolie salle, dans une des communes de Potivy Communauté. Et ce que je regrettais, c'était qu'en face de cette salle, il y ait deux maisons, mais deux maisons qui étaient fermées, deux maisons anciennes. Et je crois que là, les maires de Potivy Communauté ont bien compris qu'il fallait faire revivre leur bourg aussi, et puis essayer de faire revivre ces maisons qui sont un petit peu abandonnées. D'où une des propositions qui a été faite, c'est d'évaluer le coût des travaux pour des ménages en quête d'accession à la propriété qui seraient intéressés par une maison anciennes, mais qui veulent savoir quel est le coût, puisque bien entendu il y a toujours un certain nombre de travaux à faire. Et je trouve que ces propositions qui sont faites dans le cadre du programme local de l'habitat sont des propositions intéressantes. Alors maintenant, c'est vrai que chaque maire a sa conception de l'urbanisme, mais il existe quand même des contraintes réglementaires aujourd'hui qui font que l'étalement et la prise de nouveaux fonciers est très, très contrainte. Voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus. Et j'espère bien, effectivement, que ce programme local de l'habitat sera bien mis en œuvre. Enfin, il a été adopté, en tout cas. Alors, le processus est un peu long, puisque le projet a été adopté en Conseil communautaire du 8 avril. Il faut que chacune des communes, et effectivement, toutes les communes ne l'approuveront pas forcément, mais que chacune des communes se prononce. Il repassera en Conseil communautaire le 2 juillet prochain. Il est ensuite, tout cela a été dit au début, il est examiné, je crois que c'est au niveau du Comité régional de l'habitat et de l'hébergement, qui pourra émettre des avis et faire des demandes. Donc il peut encore être modifié, et le vote définitif n'interviendra qu'en fin d'année 2015 à Potivy Communauté. Voilà, le processus est relativement long, et puis c'est vrai que nous pouvons encore avoir quelques modifications. Voilà, Daniel.
Oui, donc tout à l'heure, Mme Guégan a évoqué l'avis de la commission Habitat-Logement, je n'ai plus exactement son intitulé. Elle a donné un avis favorable, et je vais faire le parallèle avec ce que vient d'évoquer M. Séguet. Donc, ce n'est pas gagné, même avec un avis favorable de la commission, puisqu'on l'a bien vu pour le vote du SDAJ. La commission avait émis un avis favorable sur le SDAJ à la quasi-unanimité, et le Conseil communautaire en a décidé autrement aussi à une très large majorité. Donc il y a rien de gagné, il faut se méfier des avis des commissions. C'est d'ailleurs très regrettable, parce qu'on ne considère pas tellement dans ce cas-là le travail fait dans les commissions. Mais les conseils communautaires, c'est eux qui délibèrent, c'est eux qui votent. Ensuite, je voudrais revenir quand même sur le PLH, parce qu'avec le SDAJ, on dévie un peu. Moi, je pense que, outre la production de logements sociaux, la réhabilitation des logements sociaux et également le travail en direction du parc privé, il y a un élément important dans le plan d'action et qu'il faudra évidemment dont il faudra se saisir, et que ça ne reste pas au stade d'étude. C'est l'OPA, renouvellement urbain, sur la ville de Pontivy. Il y a un enjeu essentiel pour la réhabilitation d'abord du centre-ville, parce que là aussi, dans l'étude d'analyse des besoins sociaux, le centre-ville avait été pointé. On a des belles vitrines, mais dès qu'on lève un peu la tête, le constat est un peu différent. Donc il y a un réel travail à faire sur cet OPA, plan de le renouvellement urbain, et il y a un enjeu important dont il faudra se saisir.
C'est vrai que l'OPA, dans le cas d'un renouvellement urbain, était un élément qui m'intéresse aussi. J'espère qu'elle se fera. Mais pour information, nous avions ce matin le bilan de la présentation du bilan de la première OPA, qui n'est pas spécialement de renouvellement urbain. Et puis, je ne sais pas si vous en souvenez, parce que je pense que c'est en conseil communautaire que nous avions voté le prolongement de cette OPA. Nous sommes inquiets quant au financement à venir, puisque nous avons fait cette demande en décembre. C'est en décembre, en fin d'année, qu'avait été votée une demande de prolongation de l'OPA, puisque c'est vrai que cette opération a remporté un vrai succès sur le territoire de Pothivy Communauté. Et on nous annonce aujourd'hui que nous n'aurons peut-être pas les financements pour le renouvellement. Sur l'année 2015, en fin de compte, ce sont les dossiers que nous n'avions pas pu porter l'année dernière et qui ont été repris, qui remplissent quasiment l'opération pour l'année 2015, et nous ne sommes pas assurés d'avoir les financements sur les années à venir. Donc j'ose espérer qu'en renouvellement urbain, nous aurons les financements, ou sinon Pothivy Communauté devront prendre l'intégralité des financements. Là, je parle bien entendu des financements d'État, hein, puisque ce sont les services de l'État que j'ai interpellé d'ailleurs ce matin après la présentation, puisque dans un premier temps, on nous avait dit que les financements pourraient être tenu dès lors que le bilan de l'opération, la première opération, était présenté, et puisqu'il a été présenté ce matin, et qu'il est vraiment, qui traduit quand même un véritable intérêt sur le territoire, puisque finalement quasiment tous les objectifs ont été atteints, voire plus. Mais malgré cela, on ne nous a pas assuré de financement sur les années à venir, même sur l'année 2016. Et sur 2015, il n'y a pas d'aide nouvelle, puisque c'est le reliquat de 2014 qui est financé. Donc voilà, je tenais quand même à vous le dire, puisque c'était le comité de pilotage s'est réuni ce matin et nous en avons parlé, et c'était d'actualité. Bien. Donc je propose, s'il n'y a pas d'autres observations ou d'autres questions, de soumettre le programme local de l'habitat au vote la délibération telle qu'elle vous est présentée, du moins. Donc y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? Donc la délibération est adoptée et je vous remercie. Donc, je vous propose de passer à la suite. Je crois que c'est la commission d'appel d'offres, mais avec la tablette, j'ai beaucoup. Ah oui, merci. Et donc, je passe la parole à Yann Lorsi.
Oui, merci. Donc, on va parler du réaménagement et l'extension de l'école Jules Ferry avec un avenant au lot numéro 8. Donc, le 3 octobre 2012, le conseil municipal a approuvé le projet de création du groupe scolaire du centre-ville sur le site de l'école Jules Ferry. Les marchés de travaux ont été attribués par délibération du 4 avril 2013, du 4 juillet 2013 et par décision du 22 août 2013. Des travaux supplémentaires s'avèrent nécessaires par souci de sécurité, de mise aux normes et suite à la découverte d'une infection parasitaire de type mérule. La commission d'appel d'offres du 26 mai 2015 propose l'avenant suivant. Lot 6, menuiserie intérieure. L'entreprise Guédard a été retenue pour un montant initial de 140 388,20 euros hors taxes, soit 168 465,84 euros TTC. Un avenant numéro 1 d'un montant de 13 910,79 euros hors taxes, soit 16 692,95 euros TTC, avait été validé par délibération du 23 février 2015, notamment pour installer, à la demande de la commission de sécurité, des portes DAS, dispositif actionné de sécurité, et des portes CF dans la cuisine, puissance de la cuisine supérieure à 20 kW. Dans l'école maternelle, des compléments de placard pour chaque classe avaient été demandés par le maître d'ouvrage. Des travaux complémentaires sont nécessaires suite à l'infection parasitaire de type mérule. Il est prévu le traitement anticryptogamique pour la réfection des locaux contaminés, ainsi que la dépose et la repose d'un faux plafond. Il est également demandé par le maître d'ouvrage la modification de l'organigramme engendrant une moins-value de 968,03 euros TTC sur la totalité du devis. L'avenant numéro 2 s'élève au montant de 17 493,31 euros hors taxes, soit 20 991,97 euros TTC. le montant global du marché passe à 171 792,30 euros hors taxes, soit 206 150,76 euros TTC. Nous vous proposons d'approuver l'avenant à intervenir et d'autoriser Madame la maire à le signer.
Y a-t-il des questions ? Bien, je vous soumets la délibération au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Donc la délibération est adoptée. Merci. La suivante.
Marché de maîtrise d'œuvre pour la restauration des parties effondrées du château des Rohan à Pontivy. Passation d'un avenant numéro 1 relatif au montant provisoire des honoraires. Les intempéries de début 2014 ont provoqué l'effondrement d'une partie de la courtine sud du château des Rohan à Pontivy. Cette situation a conduit à la mise en œuvre dans les plus brefs délais d'une série de mesures dans le cadre de la police du maire en matière de sécurité du Code des marchés publics, article 35-2, alinéa 1, visant l'urgence impérieuse et du Code du patrimoine concernant notamment les travaux sur immeubles classés. Par délibération du 27 février 2014, une convention d'assistance à maîtrise d'ouvrage a été passée avec la Direction régionale des affaires culturelles, de même que la passation d'un marché de maîtrise d'œuvre avec Marie-Sonzanne de Ponto, architecte en chef des monuments historiques. L'acte d'engagement du marché initial de maîtrise d'œuvre prévoyait ainsi une tranche ferme englobant les mesures d'urgence impérieuse et une phase diagnostique ainsi qu'une tranche conditionnelle pour la reconstruction qui envisageait des hypothèses de grille de rémunération en fonction du montant des travaux. Sur la base de tarifs encadrés du ministère de la Culture dans ce type de situation, le montant des travaux étant inconnu lors de la signature du contrat. L'étude diagnostique a été remise par Madame de Ponto en réunion du 7 janvier 2015. Par la présente délibération, il est proposé d'affirmer la tranche conditionnelle de la maîtrise d'œuvre avec les missions complètes et réorganisées comme suit. Une tranche ferme de 13 mois. Travaux préparatoires, travaux de confortement de la courtine sud, compris le voile béton, réalisation de tirants d'ancrage du bastion sud-est, réalisation d'une étanchéité provisoire sur le sol bas de l'espace créé dans la courtine sud. Une tranche conditionnelle numéro 1 de 10 mois, habillage en pierre du voile béton et montage de la partie haute du mur, réalisation de la dalle haute de la courtine et de son étanchéité. Reconstruction du corps de logis effondré. Une tranche conditionnelle numéro 2 de 9 mois. Travaux d'urgence de la courtine est, assainissement des douves, travaux d'urgence sur le bastion nord-est, restauration du parement du bastion sud-est, drainage au droit du bastion sud-est, démontage des installations provisoires. Le coût prévisionnel des travaux de reconstruction est estimé comme suit par la maîtrise d'œuvre à 2 771 964,06 € hors taxe, taux de TVA 20%, soit 3 326 356,80 € TTC. Pour calculer le montant provisoire de sa rémunération, la maîtrise d'œuvre propose un taux de 9,94% intégrant les missions de l'économiste et le bureau d'études techniques, soit 275 533,22 € hors taxe, taux de TVA 20%, 55 106,64 €, montant TTC 330 639,86 € TTC. Il convient de détailler le montant provisoire de la rémunération de la maîtrise d'œuvre par tranche. Tranche ferme, montant 137 766,61 €, avec phase de réalisation 65 996,78 €, avec tranche conditionnelle numéro 1, 43 793,46 €. 783,46 €, tranche conditionnelle numéro 2, 27 986,37 €, soit un total de 275 533,22 €. Il est également à souligner que les montants susvisés ne comportent pas à ce stade de l'opération les coûts du contrôle technique, du coordinateur SPS, du coordinateur OPC, des fouilles archéologiques, de l'assurance dommage-ouvrage. Un avenant numéro 2 fixera ultérieurement le montant du coût de réalisation des travaux après passation des marchés de travaux et les honoraires définitifs du maître d'ouvrage. Nous vous proposons d'autoriser la maire à signer l'avenant et tous les documents annexés.
Y a-t-il... Oui, Daniel.
Oui, la tranche conditionnelle 2 de 9 mois, elle ne concerne pas les parties effondrées du château. Donc c'est un problème de forme, là, parce que donc, dans le titre de la délibération, on indique marché de maîtrise d'œuvre pour la restauration des parties effondrées du château des Rohan, donc passation d'un avenant, et dans le corps de la délibération, il y a d'autres travaux que ce qui est mis dans le titre de la délibération. Donc, derrière ça, il y a des montants. Donc, on pourrait, enfin, le pontivien, ceux qui vont lire la délibération peuvent croire que la partie effondrée, donc le coût des travaux, c'est 2,7 millions hors taxes, et soit 3,3 millions TTC. Enfin, je ne sais pas si je m'exprime bien, mais il me semble que entre le titre de la délibération et le corps de la délibération, il y a. Donc, soit il faut rajouter dans le titre.
Alors, les 2 771 000 ne sont liés qu'à la reconstruction.
Oui, ouais, mais il peut être inscrit marché de maîtrise d'œuvre pour la restauration du château des Rohan à Pothivy, c'est tout. Et puis. Sans préciser les parties effondrées, puisqu'il ne s'agit pas que des parties effondrées,
voilà,
effectivement. Puisque les différents sondages, et je crois que nous vous l'avions présenté lorsque nous avons présenté les travaux et même les différents scénarios, en fin de compte, donc les sondages finalement avaient permis de voir qu'il y avait des renforcements à apporter sur d'autres parties du château et que l'ensemble a été intégré et puis donc sera traité en tranche conditionnelle. Donc je pense qu'en mettant sur le titre, en ne précisant pas les parties effondrées, en précisant restauration du château des Rohan, sachant qu'il ne s'agit encore que d'une première partie malgré tout, hein, c'est quand même conforter, remonter les parties effondrées et puis conforter les parties un peu fragilisées, même en dehors, voilà, du fait de l'effondrement.
Tranche ferme, alors c'est 2,7 millions. Non, c'est l'ensemble. Donc oui, ma remarque est pertinente.
Oui, elle est pertinente, tout à fait. Tout à fait. Nous... Bien, cette précision apportée, donc nous supprimerons partie effondrée. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc la délibération est adoptée. Je vous remercie et je vous propose... de passer à la suivante, Yann, sur les travaux de voirie.
Oui, les marchés de travaux de voirie, programme 2015, 2016 et 2017, attribution du marché. Des travaux de voirie sont proposés par la commission de l'aménagement urbain, des travaux et de la voirie. Le montant des travaux est estimé par la ville de Pontivy, maître d'ouvrage, à 700 000 euros hors taxes maximum par an. Oui, c'est vraiment... Enfin, c'est vraiment parce qu'on passe un marché à bon de commande. Hein. Bien évidemment, on sera loin de cette enveloppe de 700 000 euros hors taxes. Hein. Dans le cadre d'un marché à bon de commande, un appel public à la concurrence a été transmis au BOAMP le 2 mars 2015 et la date limite de remise des offres a été fixée au 23 avril 2015. 7 dossiers de consultation ont été retirés sur la plateforme Emegalis. Et 3 offres sont parvenues dans les délais impartis. Les dossiers étant complets, les candidatures ont été déclarées administrativement recevables. La commission d'appel d'offres s'est réunie le 26 mai 2015 pour l'attribution et a pris connaissance du rapport d'analyse des offres établi conjointement par les services voirie garage et marché public. Le règlement de la consultation annonçait que le jugement des offres se ferait sur le critère prix, 60%, et le mémoire justificatif comprenant toute justification et observation de l'entreprise dont les moyens humains, matériels, techniques et les références en matière de travaux similaires, ainsi qu'une note relative à la protection de l'environnement et du développement durable, donc valorisée à 40%. En conséquence, la Commission, après délibération et à l'unanimité des membres à voix délibérative, décide le classement suivant en fonction des détails quantitatifs, estimatifs non contractuels, étudiés comme base de documents comparatifs, le numéro 1 étant la meilleure offre. L'entreprise Eiffage Travaux Publics Ouest, 6 à Pontivy, avec un montant au détail quantitatif estimatif de 902 215 euros hors taxes, soit 1 082 658 euros TTC. Est arrivée en deuxième place l'entreprise Cola Centre Ouest, 6 à Plouray, avec un montant au détail quantitatif estimatif de 1 211 135 euros hors taxes, soit 1 453 362 euros TTC. L'entreprise Pigeon Bretagne Sud 6 à Hennebeau, avec un montant au détail quantitatif estimatif de 1 286 495 euros hors taxes, soit 1 543 794 euros TTC, entreprise numéro 3. Nous vous proposons de retenir l'offre la mieux classée par la commission d'appel d'offres, celle de l'entreprise Eiffage Travaux Publics Ouest à Pontivy, d'autoriser Madame la maire à signer le marché à intervenir, ainsi que les pièces annexes.
Y a-t-il des questions ? Je vous soumets cette délibération au vote. Y a-t-il des votes contre ? Abstention ? La délibération est adoptée. Je vous remercie. La toiture de l'école de Stival.
Oui. Marché de travaux pour la rénovation de la toiture de l'école de Stival. Attribution des lots. En raison de nombreuses infiltrations dans l'école depuis plusieurs années, dues aux matériaux utilisés lors de la construction, fibro-amiante, ciment, et à une mise en œuvre avec un recouvrement insuffisant, il a été décidé de remplacer la couverture. Le montant des travaux a été estimé par la maîtrise d'œuvre à 289 000 euros hors taxes. Un appel public à la concurrence a été lancé le 22 avril 2015 au travers d'une procédure adaptée comportant deux lots avec une date limite de retour des offres fixée au 13 mai 2015 à midi. Les lots sont les suivants. Lot numéro 1, travaux de couverture et de désamiantage. Travaux numéro 2, travaux de bardage bois. Il est comptabilisé sur le registre de dépôt trois offres sur support papier, dont deux offres concernant le lot numéro 1 et une offre relative au lot numéro 2. Le cabinet d'architecte Jean-Pierre Ingrand, 6 à Plohermel, maître d'œuvre de l'opération, a présenté son analyse des offres. Après en avoir délibéré et suite à la négociation prévue au règlement de consultation, la commission a émis le 26 mai 2015 les avis ci-dessous sur les attributions. Lot numéro 1, travaux de couverture et de désamiantage, estimation 253 000 euros hors taxes. Deux offres ont été reçues. La commission a décidé de retenir la proposition de l'entreprise Breiero EURL de Moron en offre de base pour un montant total de 262 514,66 euros hors taxes, soit 315 017,59 euros TTC. Lot numéro 2, travaux de bardage bois, estimation 36 000 euros hors taxes. Une offre a été reçue, la commission a décidé de retenir la proposition de l'entreprise Briero EURL de Moron en offre de base pour un montant total de 57 065,65 euros hors taxes, soit 68 478,78 euros TTC. Nous vous proposons d'accepter les propositions de la commission d'appel d'offres, d'autoriser la maire à signer les marchés à intervenir ainsi que les pièces annexes.
Questions ? Donc nous avons des montants plus importants que ce que nous aurions souhaité, ce qui nous obligera donc à modifier les crédits puisque nos crédits sont insuffisants. Mais nous avons fait une demande de travaux pendant le mois d'août aussi, qui vient, je pense, renchérir un petit peu le montant des marchés, mais il nous fallait aussi travailler en grande partie pendant les vacances, notamment pour ce qui concerne la déconstruction. Alexandra, si tu veux préciser les choses peut-être.
Oui, alors il y a donc une phase de déconstruction qui aura lieu en juillet et en août, de manière à ce que la déconstruction, compte tenu du fait qu'il y ait de l'amiante, se fera hors présence des enfants. Ça, c'est un premier point qui explique l'augmentation du coût. Et il y a également des demandes supplémentaires de M. Garetta qui a demandé, donc, puisque dans un premier temps, il nous demandait de l'ardoise qui nous obligeait à modifier la charpente de manière structurelle et qui entraînait un coût bien plus important. Mais il y a également, il a demandé du coup un bac à scie bien spécifique qui est beaucoup plus cher au mètre que le bac à scie traditionnel. Et au niveau du bardage, il a procédé de la même façon. Donc automatiquement, on se retrouve avec des coûts supérieurs, puisqu'il a demandé à ce que les bandes de rives soient complètement invisibles, ce qui entraîne un surcoût de production. Voilà. Et il faut ajouter à cela qu'à partir du 1er juillet, il y a une nouvelle norme sur le désamiantage qui va être mise en place. Donc ces quatre raisons combinées entraînent un surcoût par rapport à l'estimatif, puisque au niveau des normes, on divise par 10 les possibilités d'émission de fibres d'amiante, puisqu'on passe de 100 fibres tolérées à 10 fibres tolérées à partir du 1er juillet. Et notre chantier commençant le 6 juillet, il est directement impacté.
Donc je vous soumets cette délibération au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Donc la délibération est adoptée. Je vous remercie. Nous passons maintenant aux affaires diverses et je redonne la parole à Alexandra Leny pour présenter la délibération.
Transfert de l'exercice de la compétence infrastructure de charge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables au syndicat Morbihan Énergie. La ville de Pontivy souhaite participer au développement de l'utilisation du véhicule électrique en augmentant le nombre de bornes de recharge sur son territoire. La commune se porte par conséquent candidate à l'implantation de bornes de recharge. Le syndicat Morbihan Énergie engage un programme de développement d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables et propose aux villes adhérentes des services dans le cadre d'un transfert de compétences en vertu de l'article L2224-31 du Code général des collectivités territoriales. Conformément à cette délibération du 17 juin 2014 et du 26 septembre 2014, le comité du Morbihan Énergie fonde l'opération relative à l'utilisation de bornes de recharge. Ce transfert de compétences en faveur du syndicat Morbihan Énergie concerne la mise en place d'un service comprenant la création, l'entretien et l'exploitation des infrastructures de charge nécessaires à l'usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables, dont l'exploitation comprend l'achat d'électricité nécessaire à l'alimentation des infrastructures de charge. Les modalités de transfert de compétences sont prévues aux articles 2.2 et 3 des statuts du syndicat Morbihan Énergie et il est demandé à la commune de verser au syndicat une participation financière due en application des conditions techniques, administratives et financières pour la réalisation des travaux d'installation. La commune fournit le foncier et finance 10% de l'investissement, estimé à 12 000 euros par borne. De même, la collectivité s'engage à accorder la gratuité du stationnement aux utilisateurs de véhicules électriques ou hybrides rechargeables sur tout emplacement équipé et dans le cadre d'une opération effective de recharge du véhicule. Nous vous proposons d'autoriser Madame la maire à signer sans réserve les conditions techniques, administratives et financières d'exercice de la compétence infrastructure de charge pour véhicules électriques, telle qu'adoptée par le comité syndical du syndicat Morbihan Énergie dans ses délibérations ci-jointes du 17 juin 2014 et du 26 septembre 2014, d'autoriser Madame la maire à approuver tous les documents annexes permettant de valider le projet dans son intégralité.
Y a-t-il des questions ? Oui, Eric ?
Oui, je voudrais savoir si on a un bilan de la borne qui existe déjà, qui repère, de son utilisation.
Non, on n'a pas de bilan actuel. Il faut savoir que ces bornes-ci sont complètement différentes de la borne à recharge rapide qui a été installée au niveau de l'avenue des Cités Unies, puisque ces bornes-ci seront des bornes à charge lente. C'est-à-dire qu'elles n'auront pas d'impact sur la qualité de la batterie à terme. Parce qu'une borne à charge rapide, il faut savoir qu'elle engendre une détérioration des batteries, ce qui n'est pas le cas sur les bornes à charge lente. Et de manière à rentabiliser, entre guillemets, l'investissement qui s'élève à 2 400 € en tout pour la ville, nous avons sur ce type de borne la possibilité de les utiliser également, par exemple, dans le cadre de manifestations. C'est-à-dire qu'on pourra utiliser ces bornes-là pour fournir de l'électricité à un groupe qui se produirait sur le lieu d'implantation de la borne, puisqu'il y en a une de prévue au niveau de la plaine et la seconde est prévue au niveau du Palais des Congrès. Ça pourrait être utilisé également dans le cadre de manifestations pour les fêtes foraines. Donc ça a un usage multiple, ça ne serait pas utilisé que pour les véhicules. Il faut savoir également que ces bornes-là seront équipées pour tous les modèles de batterie. Mais malheureusement, on n'a pas de retour sur la borne à recharge rapide parce que, par exemple, ici, on pourra également charger les vélos électriques, ce qui n'est pas le cas sur la borne de recharge rapide. Donc, on espère qu'en multipliant l'offre, on permettra une utilisation supérieure.
L'idée, c'est que la borne à recharge rapide actuellement est destinée à des gens qui sont de passage en fait, sur Pontivy, alors que les bornes qu'on veut installer, c'est pour des gens qui seraient incités donc, à acquérir un véhicule électrique sur Pontivy.
Oui, et il faut savoir que à l'heure actuelle, au niveau de l'avenue des Cités Unies, la recharge se fait en 20 minutes. Oui. Là, les bornes que l'on envisage de mettre en place, c'est 1h30. Donc on veut les installer en centre-ville pour permettre aux gens d'aller faire leurs courses tout en rechargeant leur véhicule. Donc on s'adresse à une population qui est soit local ou soit envisage de rester plus longtemps sur le secteur.
Merci.
D'autres questions ? Bon, je soumets donc la délibération au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Je vous remercie. La délibération est adoptée. Qui aura été relativement rapide. Je vous propose, j'aurais dû vous en parler en début de séance, mais je voudrais vous entretenir de deux questions diverses. Une qui revient à la fermeture de la permanence de la Banque de France. Vous avez pu voir des articles dans la presse. Donc, nous avons reçu donc, le 27 avril un courrier qui confirmait la fermeture de la permanence de la Banque de France le 30 juin prochain. Donc, le personnel que nous avions rencontré, aussi interrogé, réagit à cette information et propose donc un point presse demain mardi 2 juin donc à 14h en mairie puisque nous avons mis la mairie à disposition. Des élus seront présents aussi, des élus relativement Pierre Méhagnery viendra, Gérard Huette aussi parce que nous avons décidé de proposer une pétition que je vous invite à signer et qui sera mise demain à disposition du public à l'accueil de la mairie. Alors je vous rappelle, donc, nous avions voté le 29 septembre dernier pour une motion contre la fermeture du bureau d'accueil et d'information. Nous avons, le conseil communautaire a aussi voté cette motion. Alors la Banque de France répond, puisque le personnel avait adressé un courrier aux députés aussi, et nous sommes toujours en copie des réponses qui sont adressées. Plusieurs députés se sont manifestés et en général, la Banque de France adresse à tous le même courrier de refus en disant que dans le cadre de la restructuration, ce bureau sera fermé puisque 314 passages ont été enregistrés en 2014, c'est-à-dire une moyenne de 6-3 personnes par jour de permanence et que ces passages sont inférieurs au seuil minimum fixé à 500 passages par an. Alors, le bureau coûte très peu cher à la Banque de France, puisque le loyer à la sous-préfecture était d'un peu plus de 2000 euros par an, mais nous leur avons proposé de mettre à leur disposition un bureau dans le cadre de la future maison de la justice et du droit. Malgré cette proposition d'installer gratuitement la permanence dans les locaux de la maison de la justice et du droit, donc la Banque de France maintient sa position. Et nous proposons aussi de mutualiser maintenant la permanence avec l'UDEAC afin de couvrir tout le centre Bretagne et puis d'augmenter la fréquentation. Donc si vous êtes disponible demain, je vous invite à être présent au moment donc de cette rencontre avec les personnels de la Banque de France pour le maintien de ce service, puisque c'est encore un service qui nous quitte. Je vous rappelle que nous n'avons plus de guichet à la gare, que bon, nous avons perdu le tribunal, nous sommes ravis d'installer aujourd'hui une maison de la justice et du droit, mais je crois qu'il nous faut lutter pour jusqu'au bout pour maintenir nos services publics, puisque la Banque de France a toute sa raison d'être. Elle répond aux besoins souvent de familles qui ont peu de moyens, qui en l'absence d'un bureau et d'une permanence sur place seront obligées de se déplacer à Lorient. Donc voilà, je vous invite, nous allons faire passer la pétition si vous souhaitez la signer dès ce soir, mais je voulais vous informer de cela. Et puis donc cette pétition, j'espère que beaucoup de personnes la signeront et nous essaierons de la remettre en main propre au gouverneur de la Banque de France. Donc c'était donc la première information que je voulais vous donner. Une autre, vous avez dû voir dans la presse aussi que le département du Morbihan est candidat pour accueillir les épreuves nautiques des Jeux Olympiques en 2024. Donc je vous propose d'adresser un courrier au président Goulard pour soutenir cette candidature du Morbihan pour les épreuves nautiques. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez d'autres questions à poser. Oui, Daniel.
Oui, donc la signalétique de la piscine découverte a été refaite et donc la mention espace Michel Masson a disparu. Elle est mise en place ?
Le micro.
Elle va être mise en place, d'accord. C'était ma question.
Voilà, et pour terminer, je vous rappelle l'agenda. Donc, prochain conseil municipal le 29 juin. Sinon, le week-end prochain, nous avons les fêtes napoléoniennes. Donc, vous avez pu voir le détail aussi dans la presse. Le 17 juin à 17h30, l'inauguration du mini-stadium de Toulboubou. Je vous invite à être présent. Le 20 juin, réunion de quartier, ce sera le quartier de Trélo. Samedi dernier, c'était le quartier de Bellevue, Talcouette, Pigeon Blanc. Et le 27 juin à 11h, le dévoilement de la plaque du pont Louis Robic. Donc voilà pour les rappels des quelques manifestations qui se dérouleront au cours de ce mois de juin. Oui, micro. Comment ? C'est bien mercredi 17 juin. Me dit-on, il y avait une erreur sur le carton que j'ignorais. Voilà. Donc à noter, à bien noter sur vos calendriers. Bien, écoutez, c'est relativement rare d'avoir un conseil municipal aussi rapide, mais bon, c'est plaisant de... Ah oui, ne partez pas avant de signer la feuille d'émargement. Et la pétition, si vous le souhaitez.